Bonjour à tous, c'est Seb pour votre émission Ça roule, l'émission de l'automobile, mais pas que. Cette semaine, au sommaire de Ça roule, histoire des voitures françaises d'hier et d'aujourd'hui, avec les 40 ans d'une voiture de la marque Sochalienne et qui a contribué aussi à sauver le groupe PSA à l'époque. J'ai nommé la Peugeot 309. Il y a 40 ans donc, naissait une voiture à la numérotation incongrue, à une paternité contestée et à un positionnement compliqué. C'était la Peugeot 309. Elle s'avère pourtant plus originale que ne laisse paraître son design plutôt banal. La grosse 205 ou la petite Peugeot 405, elle permet à Peugeot d'élargir sa gamme et de remplacer partiellement la Peugeot 305 qui, elle, est vieillissante à l'époque. La Peugeot 405 fera le reste au sein de la gamme. Et également, totalement éclipsé une certaine Talbot Horizon qui, elle, est très vieillissante. Moins enthousiasme que sa petite sœur, moins réussie que sa grande sœur, elle fera tout de même pourtant une carrière des plus méritantes pour un investissement relativement faible, contribuant, elle aussi, au redressement du groupe PSA à l'époque. Déclinée en de nombreuses versions, y compris sportives, la Peugeot 309 est une voiture à redécouvrir aujourd'hui. Pour sa polyvalence, sa fiabilité, on en voit encore de nombreuses sur les routes de France, et sa singularité au sein de la gamme de l'époque. Allez, sans plus attendre, un peu d'histoire. Et oui, comment est née cette Peugeot 309 ? Eh bien, le projet C28, c'est comme ça qu'elle s'appelait au sein du groupe PSA, est lancé en 1980 pour le remplacement de l'ex-Simca Chrysler, devenue Talbot Horizon, une berline à haillons de taille moyenne, lancée seulement 2 années plus tôt, vendue, elle, jusqu'en 1985. Elle ne déméritera pas, avec 869 000 exemplaires découlés, mais fera presque 2 fois moins, bien que la Peugeot 309, qui nous préoccupe aujourd'hui et qui fête ses 40 ans. Pour résumer, le projet C28 voit à l'époque son style étudié en Angleterre et son développement technique réalisé à Poissy, ex-Simca. Il s'agit bien donc à l'époque de développer une Talbot, mais les équipes du style de la marque sont déjà en rapport avec celles de la marque au Lyon, qui développe le projet M24, à savoir la future Peugeot 205, pour tenter de créer quelques synergies. Les choses vont changer à partir de 1982. Le groupe, malgré sa tentative de relance de Talbot, allant même jusqu'à la Formule 1 avec Ligier, est ambigu. La Citroën BX du groupe PSA, qui contribuera d'ailleurs également au sauvetage, au moins autant que la Peugeot 205 du groupe PSA, vient tout juste d'être lancée, sans effet sur les comptes pour l'instant. Tandis que Jacques Calvet arrive aux commandes du groupe PSA, rapidement des décisions donc sont prises, d'autant que les ventes de la marque au T chutent dramatiquement, malgré une excellente Talbot Samba. La grève déclenchée à Poissy en juin 1982, face à la baisse des effectifs, n'arrange rien. Le projet C28, donc, prend alors une toute autre tournure. Et cette autre tournure, c'est que ce projet C28 deviendra une Peugeot. En 1982, la voiture n'était pas encore définie, ni techniquement, ni stylistiquement. Dans la tête de l'état-major du groupe PSA, les choses deviennent plus claires. Il semble impossible désormais de maintenir 3 marques généralistes au sein du groupe. Et la priorité est donnée à Peugeot pour le lancement de sa Peugeot 205 et à Citroën pour le soutien de sa Citroën BX en plein lancement. Pour apaiser les esprits, on laisse planer le doute quant à l'identité de la future berline de gamme moyenne, à savoir le segment M1, et on apporte quelques garanties. Le nouveau modèle sera produit à Poissy, ainsi que d'autres Peugeot, comme la Peugeot 205 d'ailleurs, qui cartonnent. Pourtant, au bureau de style Talbot, devenu style avancé du groupe PSA, ce qui veut tout dire, on est déjà reparti dans une nouvelle direction. Une voiture s'intégrant dans la gamme Peugeot. Les liens avec les équipes du projet M24, donc la Peugeot 205, se resserre. La plateforme technique sera celle d'ailleurs de la Peugeot 205, avec un châssis rallongé et élargi, ainsi que des portes avant en commun. Tandis que le style s'en rapproche, ainsi que du projet D6, lancé en octobre 1982, qui donnera naissance, quelques années plus tard, à la Peugeot 405. Seule concession, des moteurs 1 litre 1 et 1 litre 3 d'origine Simca, en bas de gamme, le temps d'épuiser les stocks. Moteurs qui quitteront le catalogue en 1989. À croire qu'il y avait beaucoup de stocks. Donc je récapitule depuis le début, comme disait Roland McDan. En 1982 donc, l'idée d'une Talbot est avortée. Entre 1983 et 1984, le style de la future Peugeot est gelé, avec ses 28 premiers prototypes. Chez PSA, les choses sont claires depuis longtemps et le nom d'Arizona n'est jamais évoqué. D'ailleurs, la Peugeot 309 s'intègre parfaitement dans son plan produit. Une citadine tout d'abord pour PSA, et plus précisément Peugeot, avec la M24, Peugeot 205. Une compacte, la C28, avec ce qui sera la Peugeot 309. Une familiale, la D6, avec ce qui sera la Peugeot 405. Et une grande routière, la Z6, avec ce qui sera la Peugeot 605. Il s'agit d'un ordre un peu différent chez Citroën. Une familiale, avec la Citroën BX, puis une citadine, avec la Citroën AX, suivie d'une grande routière, la Citroën XM, et enfin d'une compacte, la Citroën ZX. Un chevauchement pertinent pour proposer sans arrêt un nouveau modèle dans un nouveau segment, à l'exception des grandes routières 605 et XM, lancées au même moment pour des raisons évidentes de coût de développement. Par contre, ce qui sera un petit peu déboussolant pour les aficionados de la marque au Lyon, ce sera la numérotation. Ceux qui défendent la thèse d'une Talbot devenue Peugeot se basent donc sur quelques clichés, clones, badges, Horizon et Six, au style Peugeot, et sur la numérotation étonnante de cette nouvelle Lyonne. Certes, l'apparition du 9 étonne dans une gamme en cours d'uniformisation par le 5. Pourtant, cette écueil numérique n'est pas une surprise. Après-guerre, Peugeot a longtemps vécu sur une gamme restreinte, s'adaptant petit à petit aux nouveaux segments. Les numérotations en 20X puis en 40X s'adaptent au marché sur des périodes longues et des gammes courtes, deux ou trois modèles se chevauchant. Avec son habitude de conserver ses modèles plus que de raison, il faut parfois trouver des astuces. La Peugeot 204, par exemple, n'a rien à voir avec la Peugeot 203 dans son positionnement de gamme. La Peugeot 504 inaugure alors le 50X, alors que la Peugeot 404 reste au catalogue sur le même niveau de gamme. La Peugeot 304 est une Peugeot 204 rallongée et reste presque dans la même gamme tout en s'embourgeoisant et en restant à ses côtés au catalogue. Tandis que la Peugeot 305 se rallonge un peu par rapport à sa devancière, la Peugeot 304. Et elle inaugure par la même occasion le chiffre 5, car cette dernière aura trouvé ses origines dans la série 20X. Tout bonnement, la M24 qui est la Peugeot 205. Vous suivez toujours ? C'est un peu compliqué. Or, dans les années 80, la segmentation se standardise et celle de Peugeot n'est plus adaptée à l'actualité. Des Peugeot 104, Peugeot 305, Peugeot 505, Peugeot 604 du début des années 80, on doit passer à Peugeot 205, à la Peugeot 30X, ensuite à la Peugeot 405 et à la Peugeot 605 à la fin de la décennie. Deux solutions sont donc possibles pour la série 30X. Unifier la gamme en conservant le 305, en cherchant alors à capitaliser sur la dynamique et en faisant disparaître la 305 prématurément, une solution d'ailleurs que moi j'aurais peut-être opté, parce que la 305 était quand même assez vieillissante à l'époque. Ou alors, rester très Peugeot en faisant durer la Peugeot 305 et apporter du 109 avec une numérotation exceptionnelle et décalée, la 309. La deuxième solution sera donc choisie par l'état-major, car ils m'ont pas consulté à l'époque. Ah là là. Sans que cela ne perturbe finalement les clients après avoir longuement hésité avec la Peugeot 308. Pour preuve, les 1 624 847 exemplaires vendus entre 1985 et 1993. À cette date, le retour au 06 est déjà initié depuis 1991 avec une certaine Peugeot 106 et la série 30X donc retrouve sa logique avec le lancement de la Peugeot 306. Allez, tout de suite une petite page musicale avec un bon petit son des années 80 pour rester dans l'ambiance des 40 ans de la Peugeot 309 avec le groupe Alphaville, Sounds Like a Melody, et on se retrouve tout de suite après donc pour la suite des 40 ans de la Peugeot 309. À tout de suite.
She's so soft and warm in my arms.
C'était Alphaville, Sounds Like a Melody. On se retrouve donc tout de suite pour la suite des 40 ans de la Peugeot 309. Si la Peugeot 205 a le sex appeal des citadines en vogue de son époque, à savoir les années 80 et même 90, la Peugeot 309 pâtit un peu de son côté bâtard. Ni petite, ni grande, ni originale, ni statutaire, elle va devoir se faire une place avec peu d'armes apparentes. Elle va tout d'abord miser sur une qualité séculaire chez Peugeot, la robustesse et la fiabilité, au détriment, sans doute, du physique. Quoiqu'avec le recul, ce design était plutôt réussi pour l'époque. Toujours dans la tradition, elle va jouer sur sa polyvalence de milieu de gamme, avec une large palette de finitions et de moteurs. Elle va aussi décliner les recettes initiées et qui ont fait le succès de la Peugeot 205, avec des versions sportives qui dynamisent l'offre. Vous l'avez compris, elle recevra donc, elle aussi, en 1987, ses déclinaisons à l'appellation magique GTI, avec pour particularité d'offrir le choix entre 3 et 5 portes, contrairement à la Peugeot 205, qui n'offrait que 3 portes à son appellation GTI. L'offre sportive sera complétée au même moment par la plus grande Peugeot 405 EMI 16. La qualité du châssis et des trains roulants de la Peugeot 309, compromis idéal entre la Peugeot 205 et la Peugeot 405, poussera même donc la marque au lion à offrir à cette mal aimée le must des moteurs Peugeot de l'époque, à savoir le 1,9 litre 16 soupapes de la Peugeot 405 EMI 16. Rien que ça, donnant naissance donc à un véritable mythe par la suite, qui sera la 309 GTI 16 soupapes, considérée donc aujourd'hui comme la plus grande réussite de ces années-là chez Peugeot et même au-delà. Contrairement aux idées reçues que même moi j'avais sur la Peugeot 309, ce n'était pas un vilain petit canard pour la marque au lion. Sa conception pragmatique, base de l'excellente Peugeot 205, on le rappelle encore, son positionnement, certes un peu nouveau chez Peugeot, mais parfaitement complémentaire du duo star Peugeot 205-Peugeot 405, sa polyvalence et sa fiabilité lui permettront de faire sa place. Même si cette voiture donc a contribué au succès de PSA à cette époque, il ne faut pas oublier que certains disent donc qu'elle aurait très bien pu être badgée quand même Talbot. Effectivement, elle a été pensée, on le rappelle, par des ingénieurs anglais dans l'ex-usine Chrysler, Simca, etc. Donc effectivement, cette voiture aurait pu naître Talbot et faire plaisir aux aficionados de la marque en Angleterre. Mais il y a énormément de subtilité dans cette Peugeot 309. Cette Peugeot 309 qui a contribué à perpétuer l'héritage Simca puis Talbot tout en représentant la tradition Peugeot. Et pour cela, on ne peut que saluer la performance de la marque au lion. La Peugeot 309 n'a en fait de Talbot que sa genèse du tout début, à savoir entre ses premiers esquisses en 1980 et sa première sortie de prototype en 1982. Et bien sûr, son lieu de production emblématique à Poissy, l'ex-usine Simca, qui a d'ailleurs sauvé cette usine par la même occasion. Le groupe PSA se servira d'ailleurs en 1991 de l'excellente base de la Peugeot 309 pour concevoir la future Citroën ZX. En améliorant encore cette base, elle donnera également naissance des années après à la Peugeot 306, puis à la Citroën Xara. Signe de l'excellente conception de base de cette étrange voiture qu'était la Peugeot 309. Je suis persuadé d'une chose, c'est qu'au sein du groupe PSA en 1982, lorsque le projet C28, qui deviendra la Peugeot 309, et abandonne toute idée de Talbot, d'Arizona ou d'Horizon, personne n'aurait imaginé au sein du groupe vendre plus de 1,6 million de cette voiture sous l'une ou l'autre des marques donc Simca, Chrysler ou autre Talbot. Si le chiffre 9 qui fait la terminaison commerciale et l'appellation commerciale de la Peugeot 309 blesse aujourd'hui les puristes, contribue à perpétuer la légende d'un vilain petit canard, l'excellence de l'articulation de la gamme Peugeot à l'époque, résultant des lancements des Peugeot 205, Peugeot 309 donc, Peugeot 405 et Peugeot 605 par la suite, joue contre eux. La méthode sera étendue dès 1991 avec une certaine Peugeot 106, se plaçant sous la Peugeot 205. L'heure était désormais à la finesse de l'offre et la Peugeot 309 y avait contribué dès 1985. Enfin, l'héritage Simca tirera définitivement sa révérence en 1989 avec l'abandon des obsolètes moteurs Poissy, si caractéristiques en bas de gamme, au profit de moteurs Peugeot. Pour moi, il y a quand même un petit bémol dans la commercialisation de cette Peugeot 309 qui se contentera uniquement de versions 3 et 5 portes. C'est de ne pas avoir eu une version break, malgré les propositions de l'entreprise Eliez, un partenaire historique de la marque au Lyon, pas plus d'ailleurs qu'une version cabriolet que Peugeot obtiendra avec sa Peugeot 306. Elle se contentera donc des classiques 3 et 5 portes avec un certain succès, près de 180 000 véhicules tout de même par an, pour un investissement très modique. Une voiture très rentable donc, la Peugeot 309. Elle contribuera d'ailleurs, elle aussi, au succès du groupe PSA au début des années 90, malgré l'échec du haut de gamme de la marque au Lyon, une certaine Peugeot 605. À sa sortie en 1985, la Peugeot 309 n'est disponible qu'en version 5 portes. La 3 portes n'arrivera qu'en février 1987. Elle propose alors 4 motorisations. Deux moteurs Poissy, Simca, au son si caractéristique, un 1 litre 1 issu d'ailleurs de la Simca 1100, développant 55 chevaux, et un 1 litre 3 déjà vu sous le capot des 1307, 1510, Horizon et autres Solara. Et même la Matra Baghera en héritera avec 65 chevaux à la clé. Et deux moteurs de la marque socialienne, deux moteurs XU, bien plus Peugeot donc, un 1 litre 6 de 80 chevaux et un 1 litre 9 de 105 chevaux, déjà vu sous le capot notamment d'une certaine Peugeot 305 GTX, la 305 GTX qui était le haut de gamme, donc de la 305. En juin 1986, le diesel fait son apparition avec le XUD 1 litre 9 de 65 chevaux. Avec l'apparition des versions 3 portes, la Peugeot 309 s'encanaille avec le 1 litre 9 injection de 130 chevaux et devient la Peugeot 309 GTI. Pour le millésime 1989, puisqu'à l'époque il y avait des millésimes qui apparaissaient tous les mois de juillet calendaire, donc en juillet 1988 pour celle-ci, les 1 litre 6 passent à 92 chevaux et 80 chevaux en automatique. Si la GT disparaît, le 1 litre 9 105 chevaux reste sous le capot des SX en 5 portes et XS en 3 portes. L'année suivante, la Peugeot 309 reçoit un restylage bienvenu et ses motorisations évoluent encore. Les moteurs Poissy Simca disparaissent pour laisser place à des TU Peugeot 1 litre 1 de 60 chevaux et 1 litre 4 de 70 chevaux. La version automatique, quant à elle, passe à 92 chevaux. Et la superbe version GTI 16 soupapes fait son apparition avec, s'il vous plaît, 160 chevaux de pur bonheur. Enfin, les versions diesel évoluent avec un 1 litre 7 de 60 chevaux en Atmo et 78 chevaux en turbo. En 1991, les 1 litre 4 passent à 75 chevaux. En 1992, les moteurs 1 litre 9 passent à l'injection, récupérant 5 chevaux au passage. En revanche, le catalyseur fait beaucoup perdre aux sportives. À savoir, la GTI redescend à 122 canassons, quand la GTI 16 soupapes, elle, passe à 148 chevaux. En juillet 1993, la fin est proche et la gamme est limitée au 1 litre 1 essence et 1 litre 7 diesel Atmo, laissant ainsi place à la Peugeot 306. Au final, la Peugeot 309 se sera écoulée à 1 624 847 exemplaires, soit presque autant que la Peugeot 305 et deux fois plus qu'une certaine Talbot Horizon. Pour conclure, vous l'aurez compris, cette Peugeot 309 est bel et bien une voiture de la marque au Lion et non une Talbot. Aux yeux de Peugeot, à l'époque, il fallait sauver l'outil de production qu'était l'usine de Poissy. Quitte à sacrifier donc la marque Talbot sur l'autel de la logique, des finances et du marché. Avec la Peugeot 309 au coût de développement réduit, Peugeot obtenait alors le parfait trait d'union entre la Peugeot 205 et la Peugeot 405 et répondait à une demande forte du marché. Avec donc un peu plus de 1,6 million d'unités vendues en un peu plus de 8 ans, elle installait la marque, donc le groupe PSA, sur ce segment devenu primordial, offrant une excellente base pour la descendance badgée du Lion, comme des chevrons. Si vous voulez vous offrir aujourd'hui une Peugeot 309, qui, il faut le rappeler, est polyvalente et fiable, ses cotes sont assez faibles. Seule la Peugeot 309 GTI 16 soupapes explose les plafonds, de par sa rareté et ses performances. Les GTI tout court sont d'excellentes affaires, surtout en 5 portes, à condition d'en trouver en bon état. Tous les autres modèles sont encore des modèles d'usage, sans grand intérêt, à part peut-être une série spéciale comme la Green, l'Océane ou encore la Corus, ou les versions haut de gamme, les SX, XS pour les 3 portes et autres GT. Mais pour qui est nostalgique de se déplacer dans une voiture un peu originale, pas chère, solide et bénéficiant d'excellents trains roulants et d'une tenue de route exemplaire, sans parler de l'endurance des moteurs diesel, bien sûr, la Peugeot 309 peut s'avérer être un choix malin et décalé. Bon anniversaire, la Peugeot 309. Voilà, le temps qui nous était imparti est parti. Cette émission s'achève sur les 40 ans de la Peugeot 309. Je vous dis, quant à moi, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Ça roule. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et une très bonne route. Vive.